Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et le droit. Au programme, le gériatre qui est sorti de l'hôpital. Acteur de changement, la sociologue qui transforme la police. Et jeter ses choux gras. Bonne écoute.
Le gériatre qui est sorti de l'hôpital. Écrit par Caroline Touzin et publié le 30 décembre 2022 dans La Presse. Demander de l'hôpital. À part peut-être des cas complexes, stimulants intellectuellement, à traiter. Et encore. Mais ce qu'il ne lui manque pas du tout. Demander l'asile. De voir les patients trop tard. Trop tard, comme dans le cas de Mme Poitras, 85 ans, qui arrive en ambulance après avoir fait une chute dans son logement encombré et passera les 24 premières heures, sinon plus, couchée sur une civière à l'urgence. Mme Poitras est un nom fictif pour représenter de nombreux cas que le docteur Lemire a observé au fil des ans. On va lui mettre une couche, elle ne sera pas mobilisée durant tout ce temps et ses capacités vont tomber en flèche, résume le gériatre. Conséquence, Mme Poitras ne pourra jamais retourner vivre chez elle. Le médecin spécialiste de 46 ans a quitté le milieu hospitalier il y a bientôt 10 ans. Au fil de rencontres avec des acteurs communautaires, il a ensuite créé la fondation AGES pour développer un modèle de gériatrie sociale visant à prévenir ce genre de scènes trop fréquentes aux quatre coins de la province. Pensez pédiatrie sociale du docteur Gilles Julien, mais pour les personnes âgées. On garde les personnes âgées en santé à domicile avec les ressources qui existent déjà dans la communauté, résume-t-il. Rien de magique ni même nouveau, insiste le médecin qui n'a pas la langue de bois. Ce qui est nouveau, c'est de le faire. Mamie est à l'hôpital. Deux aînés ont inspiré ce médecin hors norme. Sa grand-mère Laurette et sa voisine, lorsqu'il faisait des études en gestion appliquée à la santé, en Angleterre, Madame Gordon. C'est sa grand-maman qui lui donne envie de devenir gériatre. Ils ont toujours été très proches. Elle lui faisait faire ses devoirs quand il était enfant. Après ses études en médecine, alors qu'il étudie la gestion appliquée à la santé à Londres, sa mamie de 95 ans est hospitalisée. On l'informe qu'il n'y a plus rien à faire. Il décide de prendre l'avion pour l'accompagner dans ses derniers moments. Laurette était en délirium. Or, en regardant ses bilans, il remarque un taux deux fois trop élevé de calcium. Il fait arrêter un médicament. Résultat, son taux de calcium redescend à la normale. Il y a de quoi qui ne marche pas dans notre système si tu risques de mourir de quelque chose de réversible causé par des médicaments, lance-t-il en entrevue émotif. Deux semaines plus tard, Laurette obtient son congé de l'hôpital, assez en forme pour profiter de la vie de sa famille. Madame Gordon, sa voisine de 93 ans à Londres, elle, souffre d'une maladie cognitive assez sévère. Elle fait beaucoup d'errance. Et pourtant, elle réussit à vivre à domicile, car elle reçoit trois visites quotidiennes, livraison de repas, supervision pour la prise de médicaments, etc. Un jour, alors que sa voisine a un problème respiratoire aigu, le docteur Lemire appelle l'ambulance. Après avoir évalué la patiente et lui avoir administré des inhalateurs, l'ambulancier conclut qu'il n'a pas besoin de la transporter à l'hôpital. Ce dernier s'assure, grâce au système en place, qu'une infirmière viendra la visiter à domicile le lendemain matin. Le déclic se fait, lance le docteur Lemire. Même si tu n'es pas en forme, tu peux rester chez vous avec le soutien approprié. 10 ans plus tard, l'un des projets de la Fondation AGES consiste à former des ambulanciers à l'approche de la gériatrie sociale, s'inspirant de ce qu'il a vu à Londres pour éviter de transporter systématiquement les aînés à l'urgence. Sentinelles et navigateurs. Mais revenons à Mme Poitras, que le docteur Lemire aurait vue trop tard à l'hôpital. Dans son modèle de gériatrie sociale, le préposé provenant d'un organisme communautaire qui vient faire le ménage chez Mme Poitras toutes les semaines est formé comme sentinelle. Dans ce programme, le préposé sait comment distinguer le vieillissement normal du vieillissement accéléré. Il aurait remarqué, lors de sa dernière visite, des ecchymoses sur le visage et les bras de Mme Poitras, conséquence d'une chute mineure, et sonné l'alarme. Le sentinelle aurait accès à un navigateur, poste créé dans le même organisme pour le projet de gériatrie sociale, qui aurait pris le relais, fait des observations complémentaires et aidé l'aîné à obtenir des services communautaires. On aurait pu désencombrer son logement, lui fournir un déambulateur, dégager le passage jusqu'au frigo. Le médecin aurait pu ajuster sa médication au besoin. Tout cela à l'extérieur de l'hôpital. Souvent, on a le réflexe de pelleter en avant, vers le réseau de la santé. Puis, finalement, le patient arrive devant le spécialiste en pneumo, en cardio ou en gériatrie. Puis, rien des affaires de base n'ont été faites. Il y a bien des affaires à faire avant qui ne demandent pas l'expertise de spécialistes. C'est plus efficace de faire le maximum d'interventions dans la communauté, fait valoir le docteur Lemire, que d'aller dans le réseau de la santé, tomber sur une liste d'attente et devoir patienter pour l'évaluation d'un professionnel de la santé pour avoir accès à tel ou tel service. Désencombrer un logement, ce n'est pas un acte réservé et ça diminue les risques de chute. Or, les organismes communautaires sont trop souvent incapables de faire débloquer quelque chose avec le réseau de la santé lorsque ça devient nécessaire, explique le gériatre qui a démarré son premier projet pilote en 2014 dans la basse ville de Québec. Le médecin spécialiste y a été chauffeur bénévole durant quelques mois pour comprendre les besoins sur le terrain. C'est là qu'il imagine une fonction de navigateur chargé de trouver ce chemin vers les services appropriés. La prémisse? Il y a une pénurie de personnel dans le réseau de la santé, donc on n'ajoute pas d'infirmières ou d'autres professionnels, car de toute façon, on n'en trouvera pas. Il n'y a pas d'argent, donc il ne faut pas que ça coûte cher et on ne veut pas de la brique, on veut des services. À l'heure actuelle, la Fondation AGES a une douzaine de projets pilotes dans autant de régions du Québec, rejoignant ainsi plus de 15 000 aînés. La moitié des projets sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, l'autre par de la philanthropie. Dans l'un des projets pilotes, sur 1 000 aînés qui ont eu des interventions directes, seulement 5 ont eu besoin du médecin de famille pour obtenir un diagnostic ou dénouer des impasses diagnostiques ou thérapeutiques. D'ailleurs, les organismes qui ont des préposés formés en gériatrie sociale ont une meilleure rétention de personnel, souligne-t-il. Avec de 25 à 30 millions par an, on peut agir à la grandeur du Québec, extrapole-t-il, et rejoindre du même coup 170 000 aînés à risque. Si on réussit à déployer le plan de la Fondation AGES d'ici 5 ans, je ne regretterai plus jamais l'hôpital. Si le politique, en d'autres mots, la coalition Avenir Québec qui a été reportée au pouvoir, est favorable à étendre la gériatrie sociale à toute la province, dit-il. Mais la machine n'a pas encore accouché du programme promis par la CAQ aux élections de 2018. Peut-être qu'on ne fit pas dans le modèle habituel de financement du MSSS qui passe généralement par les CISSS et les CIUS, avance-t-il. Il y a la vision de la gestion de la gériatrie sociale qui s'entrechoque parfois avec celle du réseau de la santé. La gestion en 2022, ça ne devrait pas être top-down. C'est plus de l'accompagnement, des modalités de gestion apprenante, de l'amélioration continue, décrit le docteur Lemire. La pandémie aurait dû être un gros wake-up call, croit-il. Le gériatre déplore qu'on ait enfermé les vieux chez eux et qu'on ne semble pas en avoir tiré de leçon. La santé est un phénomène complexe en vieillissant. On ne peut pas agir sur un seul aspect. Ne pas avoir la COVID, mais vouloir se jeter en bas du balcon de sa résidence parce qu'on n'en peut plus d'être enfermé, ça ne peut pas être ça, notre vision de la santé des aînés. Durant la pandémie, les préposés d'aide à domicile qui jouaient le rôle de sentinelle n'avaient plus le droit d'aller chez les aînés. Les navigateurs se sont donc mis sur le téléphone pour les joindre. On s'est rendu compte très vite que les aînés confinés perdaient rapidement de l'autonomie, raconte-t-il. On s'est empressé de mettre en place des formations et des capsules vidéo pour limiter le déconditionnement et les conséquences du confinement. Sans vouloir critiquer le gouvernement, ce dernier a publié ses recommandations officielles sur le sujet. Un an plus tard, fait-il remarquer. Le fait de travailler sur le terrain, ça nous montre rapidement les problèmes, dit-il. D'où un certain sentiment d'impatience. En fait, je commence à avoir le feu au cul, lâche le médecin. Chaque jour qui passe sans que le programme gouvernemental pour étendre le modèle à tout le Québec ne soit sorti, ne soit financé, c'est un aîné qu'on échappe peut-être qui va se ramasser à l'urgence ou au CHSLD, plaide-t-il. Il faut que ça arrête. C'était le gériatre qui est sorti de l'hôpital, un article de Caroline Touzin, publié dans la presse du 30 décembre 2022.
Acteurs de changement. La sociologue qui transforme la police. Un texte de Caroline Touzin, paru le 29 décembre 2022 dans La Presse. Tout le monde, ou presque, connaît Fadi Daguerre, le nouveau chef de police de Montréal qui a piloté un changement de culture lorsqu'il était à la tête de la police de Longueuil. Mais dans l'ombre de ce chef hors norme se cache une sociologue-anthropologue, Gabriella Coman. Ensemble, ils ont élaboré le projet Immersion, qui a mené au nouveau modèle de police de concertation qualifié de police de l'avenir par le gouvernement du Québec. Lorsque Fadi Daguerre débarque à la police de Longueuil en 2017, il recrute 3 employés du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal. Parmi eux, Gabriella Coman, qui travaille alors sur un projet avec des familles québécoises et européennes de jeunes partis faire le djihad en Syrie. Au départ, la sociologue ne se voit pas travailler pour la police. « Oublie ça », répond-elle à un premier ami qui lui envoie l'offre d'emploi. « La police, c'est une organisation très hiérarchique. C'est paramilitaire », explique la quadragénaire, « alors que je ne suis pas quelqu'un qui obéit si je n'y trouve pas un sens. » Mais un second ami, qui a connu le chef de la guerre au début des années 2000, lui recommande aussi de postuler. Déjà à l'époque, Fadi Daguerre misait sur l'importance de tisser des liens avec les populations vulnérables. Sa curiosité est piquée. Celle qui a grandi en Roumanie a connu la Securitate, la terrible police politique du communisme. Comme beaucoup d'immigrants, tu restes avec une certaine image des forces de l'ordre. En Roumanie, on ne voulait surtout pas être identifié comme travaillant avec ce genre de force, dit Gabriela Coman. Disons que j'ai toujours été critique de la police, dit l'intellectuel qui possède deux maîtrises sur les questions d'ethnicité et de nationalisme de droite, l'une en sociologie et l'autre en anthropologie. Durant ses études universitaires, elle s'intéresse toujours au même filon, les questions d'identité et de différence, explique celle qui déménage au Québec en 2001 pour faire son doctorat. En d'autres mots, comment on peut mieux vivre ensemble, la majorité et les minorités, avec nos différences, sans écraser l'autre? Elle réalise ensuite un post-doctorat sur les manifestations du printemps érable en 2012. Disons que la police n'a pas été amicale durant cette période, résume-t-elle, ça renforçait mes appréhensions. Sauf qu'elle enseigne ensuite la sociologie à de futurs policiers au collège Hansik. Et là, elle découvre des jeunes hyper curieux, animés d'un grand désir de comprendre différentes réalités. J'ai vraiment eu du fun avec eux, décrit-elle. Je leur donnais 100 pages à lire en une semaine et la semaine suivante, ils les avaient lues. À son entrevue d'embauche à la police de Longueuil, la sociologue précise qu'elle tient à sa liberté de critiquer. Dès sa première réunion avec Fadi Daguerre, elle ne se gêne pas quand le chef lui résume ses réalisations pour se rapprocher des communautés dont la formation de comités, jeunes, noirs, arabes, asiatiques, etc., que la police consultait au besoin. « Moi, je ne ferai pas ça », lui lance-t-elle après sa présentation. Aux yeux de la sociologue, ce type de comité contribue à la stigmatisation, à la mise en silo des communautés. Si tu parles seulement aux porte-parole, tu perds toutes les nuances qui existent dans ces communautés, poursuit-elle. Mon commentaire l'a surpris. Mais il était ouvert à essayer autre chose, se souvient la sociologue. Avec ses deux autres collègues civils nouvellement embauchés, Mme Coman entreprend une grande tournée des groupes communautaires pour connaître leurs perceptions et leurs attentes envers la police. Vous écoutez « Acteur de changement, la sociologue qui transforme la police », un texte de Caroline Touzin paru le 29 décembre 2022 dans La Presse. Au refuge pour sans-abri, l'abri de la Rive-Sud, on lui raconte une histoire qui la renverse. Deux patrouilleurs, à la recherche d'un homme en crise, sont entrés de force dans le bureau d'un intervenant. Ce dernier leur avait interdit l'entrée, car il détenait des renseignements confidentiels qu'il n'était pas autorisé à communiquer à la police. L'intervention a dégénéré. L'employé a eu le bras cassé. Les gens de l'organisme en itinérance lui ont raconté l'événement comme s'il avait eu lieu la veille. Or, cela s'était déroulé 5 ans plus tôt. Je voyais la profondeur de la blessure, décrit la sociologue. Dans certains groupes communautaires où la méfiance envers la police est grande, Mme Coman et ses deux collègues répètent « On comprend vos critiques. On va amener ces points de vue à l'interne et travailler pour que ça change. » Le mot se passe dans toute l'agglomération. 3 civils un peu particuliers ont intégré le corps policier. Je représentais la police sans mettre en évidence la culture policière, résume Mme Coman. Ça a été essentiel pour créer les liens avec les partenaires. C'est ici que ses études en anthropologie influencent la suite des choses. En Roumanie, elle avait déjà fait des stages immersifs de 2 à 3 semaines, notamment dans des villages. Les étudiants étaient en binôme. Chaque jour, ils faisaient un retour sur ce qu'ils avaient vécu. Et si les policiers faisaient la même chose chez les populations vulnérables? Je ne pensais jamais qu'on pourrait le faire. C'est énorme d'un point de vue financier, organisationnel et aussi d'un point de vue émotionnel. Le chef de guerre a proposé une durée de 5 semaines. Même au baccalauréat en anthropologie, je n'avais pas fait de stage aussi long, lâche-t-elle. Ainsi, 30 policiers en civil et sans armes ont vécu différentes expériences, souvent déstabilisantes, dans la communauté pour la première fois à l'automne 2019. Le programme de développement professionnel baptisé « Immersion » a été répété 2 autres fois depuis. Refuge pour sans-abri, maisons de jeunes, familles de réfugiés ou encore d'enfants autistes, organismes de santé mentale, mosquées, autant d'immersions dans des milieux que les agents connaissaient peu ou mal. La presse avait d'ailleurs raconté cette première expérience dans une série de reportages. Des policiers ont témoigné devant leurs collègues que l'expérience les avait transformés. Une policière nous a dit que pour elle, il y avait un avant et un après immersion, décrit la sociologue. Ça a changé sa vie, sa façon d'interagir dans des situations limites. Maintenant, elle sait comment les autres peuvent se sentir quand la police intervient. Le stage en a réconcilié plusieurs avec leur métier. Cela a redonné du sens à leur travail au quotidien. Je suis entré dans la police pour aider le monde, et avec le temps, j'avais oublié pourquoi je faisais cela, a témoigné l'un d'eux. Ce même agent est d'ailleurs devenu un policier réseau, la continuité du stage immersion. Les policiers réseau sont accessibles, circulant à pied et se concentrant sur la prévention dans des zones vulnérables. L'idée étant que les policiers travaillent avec les partenaires du milieu pour mieux intervenir avant la crise, avant l'appel au 911. Et pour cela, il faut qu'ils apprennent à se connaître et à se faire confiance. Sans un chef extrêmement ouvert au profil atypique, on n'y serait pas arrivé, insiste Mme Coman, humble quant à son apport au changement de culture. Je suis là pour soulever des points dissonants dans cette culture policière et comment on peut l'amener à travailler différemment. Québec et plusieurs maires influents vantent désormais ce modèle de police de concertation. Tu ne peux pas avoir une institution avec un rôle aussi important dans la société qui reste ancrée dans des réalités du passé, croit la sociologue. On n'est plus dans une société directive, il faut être à l'écoute de l'autre, se mettre à égalité avec les partenaires. C'était « Acteur de changement, la sociologue qui transforme la police », un texte de Caroline Touzin paru le 29 décembre 2022 dans « La presse ».
Jeter ses choux gras, un éditorial de Marie-Claude Lortie, paru le 17 décembre 2022 dans Le Droit. On a appris cette semaine, grâce à une enquête de notre collègue Marc Allard des Coop de l'information, dont Le Droit fait partie, que la chaîne de quincaillerie Home Depot jetait régulièrement à la poubelle des tas d'objets neufs. Alors qu'on réfléchit sur la protection de l'environnement à la COP15 à Montréal, qu'on discute de compost, de recyclage, de surconsommation partout dans la société, alors que le ministre Pierre Fitzgibbon, lorsqu'il n'est pas à la chasse aux faisans, nous invite à la sobriété énergétique, la grande chaîne, elle, met ses choux gras aux ordures. Outils, luminaires, portes, revêtements de sol, électroménager, articles de salle de bain. La liste d'objets neufs plus ou moins moches ainsi gaspillés est longue. Des produits, pour la plupart, qui ont été rapportés dans les magasins parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire et que la chaîne préfère ne pas remettre sur les tablettes. Ceci est inacceptable, car on sait tous que la surconsommation et le gaspillage sont en train d'étouffer notre planète. S'ils sont pour être jetés, ces objets devraient être donnés à des organismes aux missions sociales qui sauront les remettre en circulation. Qu'on lance un appel à tous, bric-à-brac à donner. Ce n'est pas ça qui va anéantir la marge de profit des grandes surfaces. Par contre, les consommateurs d'aujourd'hui et de demain savent, maintenant, que la chaîne ne met pas en application concrètement ses beaux principes écolos. Et ça, ça fait mal aux affaires. Suite à la publication du reportage, Équiterre a lancé un appel à tous pour que tous les commerces qui gaspillent ainsi des objets soient montrés du doigt. Si des militants contre le pétrole sont capables de lancer de la soupe ou se coller sur les œuvres d'art les plus célèbres dans les grands musées du monde, à quoi peuvent s'attendre maintenant les entreprises qui mettent à la poubelle des produits qui pourraient servir aux victimes les plus touchées par l'inflation, pour ne nommer que celles-là? Il est difficile d'imaginer qu'une crise de relations publiques, d'image de marque, comme celle que vit la chaîne de quincaillerie américaine, soit plus facile à gérer qu'une boîte de robinet trop moche pour retourner sur la tablette. Bonne chance. C'était « Jeter ses choux gras », un éditorial de Marie-Claude Lorty, paru le 17 décembre 2022 dans Le Droit.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.